carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quelle est la mission du Mobilier National ? Cette institution, qui n'est autre que l'ancien garde-meuble royal, historiquement très lié à la manufacture des Gobelins depuis Colbert, est actuellement attachée depuis 2003 à la délégation des arts plastiques du ministère de la Culture. Quand les cours royales étaient itinérantes, la nécessité de meubler les différentes résidences royales au gré des séjours du roi et de ses familiers s'imposa à partir du XIIIe siècle. Ainsi, les objets de la couronne, les meubles et les tapisseries firent l'objet d'inventaires. Pour mieux les entretenir, les inventorier et en créer au service de la gloire du roi, Louis XIV et Colbert créèrent le garde-meuble royal. Abandonné sous la Révolution, repris sous l'Empire napoléonien, supprimé, rétabli en 1870, il prit le nom de Mobilier National pour servir cette fois la Troisième République. Le Mobilier National est installé depuis 1937 dans un bâtiment construit en ciment par Auguste Perret sur les anciens jardins de la manufacture des Gobelins dans le 13e arrondissement de Paris. Au garde-meuble royal succéda donc le Mobilier National, institution dont Bernard Schotter est l'administrateur. Il en définit pour Canal Académie la vocation au micro de notre collaboratrice Monelle Ayot, spécialiste en métiers d'art. Retrouvons Monelle Ayot et Bernard Schotter à l'occasion de deux expositions. 4 siècles de création, le château de Versailles raconte le Mobilier National et l'exposition en 2 volets, décors et installations, à la Galerie nationale de la tapisserie à Beauvais et à la Galerie des Gobelins à Paris.
Nous recevons aujourd'hui M. Bernard Schotter, qui est administrateur général du Mobilier National. Comment avez-vous eu l'idée de cette exposition au château de Versailles ?
En fait, c'est la présidence et la conservation de Versailles qui nous ont proposé ce projet, qui est en réalité un projet double, puisque vous avez 2 volets. D'une part, un volet, je dirais, patrimonial, qui est une exposition qui récapitule les dépôts que le Mobilier National a pu consentir ces dernières années pour contribuer au remeublement de Versailles. Ce sont des dépôts importants à la fois en quantité, plus de 120 œuvres déposées, et aussi en qualité, il y a quelques pièces extraordinaires. Et donc c'était l'occasion pour Versailles de poser la question du remeublement de Versailles et de faire sentir au public l'effort que nous avions accompli dans ce sens. Et puis le deuxième volet pose également la question du remeublement de Versailles, mais d'une toute autre manière, plus ludique, et celle-ci est purement temporaire, à travers une exposition qui nous a amené à investir les appartements du Dauphin et de la Dauphine, comme si nous avions un occupant dans ces appartements qui nous demandait de les meubler pour y vivre aujourd'hui, et donc nous y déposons des tapisseries, des tapis qui sont des créations récentes de nos manufactures et du mobilier de création réalisé par l'atelier de recherche et de création du Mobilier National.
Bernard Schotter, on vous connaît bien parce que vous avez changé la vision qu'on avait du Mobilier National, d'abord parce que vous avez rendu l'immeuble plus visible. J'ai le souvenir d'une exposition à la galerie de la tapisserie de Beauvais où vous aviez fait découvrir les meubles qui avaient été créés pour la présidence de la République au fil du XXe siècle. Aujourd'hui, cette initiative de remeubler Versailles, nous l'appelons tous de tous nos voeux. On va peut-être parler davantage du volet création parce que c'est le volet qui peut-être est le plus insolite. Donc nous comprenons bien que c'est une exposition temporaire, que donc les lieux ne sont pas faits pour les meubles qui y sont exposés. Bruno Ponce disait un peu des period rooms, et c'est un peu ce qu'on reconstitue en faisant une exposition de Mobilier National, que c'était des pièces sans fonction. Aujourd'hui, c'est la notion de la fonction qui nous interpelle quand on fait ce genre d'exposition dans un lieu qui n'est pas fait pour les fonctions des meubles qui sont créés aujourd'hui. Que pouvez-vous nous en dire ?
Nous avons justement pris cette notion de fonction que vous évoquez à juste titre comme le guide, le fil d'Ariane pour construire cette exposition, parce qu'on sait très précisément à quoi servait, quelle était la fonction de chaque pièce dans ces appartements du dauphin et de la dauphine, et nous avons scrupuleusement conservé cette fiction, je dirais, cette notion en tout cas historique, et donc nous sommes intervenus dans l'antichambre en tant qu'antichambre, dans la chambre en tant que chambre, etc. Donc c'est une façon à la fois de faire sentir au public comment fonctionnaient ces appartements, quelle était leur logique, la logique de progression des pièces qui menait des pièces les plus publiques aux pièces les plus intimes, mais avec un mobilier qui, bien entendu, est un mobilier d'aujourd'hui, mais qui prolonge au fond ses fonctions traditionnelles d'une autre manière.
Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix du mobilier ? Est-ce que ce sont les créateurs ou les matières ? Ou est-ce que vous avez repensé une orchestration en fonction des pièces dans lesquelles ils allaient aller ?
Outre le critère de la fonction qu'on vient d'évoquer, le critère principal a été celui de la recherche d'une harmonie et d'une cohérence, loin de toute provocation. Donc cette harmonie, cette cohérence, on pouvait la trouver effectivement à partir des matières, comme vous l'avez dit, à partir aussi des couleurs. On a trouvé des couleurs qui s'harmonisaient avec celles des tentures, par exemple, ou des lambris, qui pouvait se trouver dans telle ou telle pièce, aussi une harmonie au niveau des proportions, parfois également au niveau des sujets ou au niveau des formes. Et on s'est aperçu en faisant cet exercice que certains motifs décoratifs traversaient finalement les siècles et qu'on pouvait trouver des éléments, des frises par exemple, qui se répondaient de manière inattendue entre une console du XVIIIe siècle et un tapis créé par Agam. Ce sont des rapprochements formels qui ont surgi et qui se sont imposés d'eux-mêmes, je dirais, à travers l'exercice de réflexion auquel nous avons procédé.
On a coutume de dire que la qualité égale l'intégration du contemporain en milieu ancien fonctionne parfaitement. Est-ce que là, vous pourriez nous dire aussi que le trait d'union entre ces décors et cette exposition temporaire, ce serait le textile ? On a vu des tapisseries, par exemple, qui sont d'une taille assez extraordinaire dans cette exposition.
Les traits d'union, c'est le textile, mais c'est aussi à travers le mobilier. Je crois que c'est surtout, comme on le disait, c'est ces questions d'analogie ou de résonance formelle qu'on a pu mettre en évidence. C'est vrai qu'il y a des tapisseries assez spectaculaires dans l'exposition, notamment l'immense tapisserie de Vasarely, qui est un chef-d'œuvre d'art optique et qui produit un effet visuel tout à fait étonnant, puisqu'on a en fait l'impression qu'on a affaire, si j'ose dire, à une tapisserie gonflable, et cette tapisserie représente dans son volet gauche une sphère, et on a vraiment l'impression qu'à chaque regard qu'on pose sur la sphère, la sphère est en train de se gonfler comme un ballon, donc il y a vraiment des choses très, très étonnantes. Autrement, puisque vous posez la question spécifiquement du textile, c'est vrai que par exemple nos tapis que nous avons été amenés à déposer sont plutôt plus petits en moyenne, de taille plus réduite que les tapis qu'on aurait installés au XVIIIe siècle, mais ce qui leur permet de s'insérer dans le décor de ces pièces, on l'a constaté, c'est la force de la couleur, et il y a une telle force à ce niveau-là que finalement la dimension un petit peu plus réduite des tapis passe inaperçue et le tapis arrive à s'imposer, à exister dans le décor simplement par la force des couleurs choisies par les artistes et teintes dans notre atelier de teinture.
D'ailleurs, Versailles, à sa création, était très coloré, donc vous revenez dans une tradition de couleurs. Donc comment s'est orchestrée un petit peu la façon dont vous avez déroulé ces 4 siècles de création ? Le remeublement de Versailles, est-ce que vous voulez dire que ce sont des dépôts du mobilier national qui vont rester pour toujours quand ce n'est pas l'exposition temporaire ? Parce que c'est évident que voir Versailles meublé, ça réjouit absolument tout le monde.
Bien, en ce qui concerne les éléments d'art ancien, il s'agit de dépôts qui, en tout cas, sont des dépôts durables et qui ont effectivement permis de faire revenir à Versailles des pièces qui étaient d'origine royale ou d'origine versaillaise, dans la majorité des cas, et lorsque ça n'était pas le cas, des pièces équivalentes à des pièces qui s'étaient trouvées à Versailles dans ces endroits. Donc, de toute façon, un respect absolue de l'histoire et de la cohérence des ameublements. Parmi ces pièces, il y en a quelques-unes évidemment qui tranchent. Par exemple, la table console qui provient du château de Marly, une commande royale des années 1680, est une chose rarissime qui a été installée d'ailleurs dans un des grands salons, des grands appartements, compte tenu de son importance. Dans le domaine du textile, on peut citer aussi l'extraordinaire tapis de savonnerie tissé pour la dauphine mère de Louis XVI dans les années 1750, qui est un tapis rocaille d'une très grande virtuosité, d'une grande fraîcheur de couleur, et qui est une pièce évidemment unique.
On peut dire que vous avez tenté une restitution très 18e.
On est franchement parti de ce qu'on avait dans les collections, donc on n'a pas privilégié ceci ou cela, mais voilà, il se trouve que nous avions la table de Marly, que nous avons pu identifier dans le bureau du ministre de la Défense où elle se trouvait, mais on n'avait pas repéré jusqu'à il y a peu que c'était une table qui provenait de Marly. Donc ce sont les recherches menées par nos inspecteurs qui ont permis de faire un certain nombre de découvertes, d'identifications, et qui sont à l'origine de ce projet de dépôt. Voilà un peu comment nous avons procédé.
Là, on peut peut-être parler du travail mené par Jean-Jacques Gauthier depuis des années. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est de voir que, peut-être me contredirez-vous, au fil des ans, autour du patrimoine, s'est créé tout un noyau de passionnés. Et tous ces passionnés ayant travaillé ensemble ont peut-être aidé à changer les mentalités et vous ont peut-être aidé, vous, à sortir le mobilier des réserves, parce que vous avez vraiment bouleversé cette idée poussiéreuse qu'on avait d'un mobilier exceptionnel qui allait meubler des ambassades dont les gens, finalement, n'appréciaient pas toujours la valeur.
Effectivement, lorsque l'historique des objets n'est pas connu, il n'est pas toujours facile de savoir exactement quelle est la valeur d'un objet et de l'apprécier comme il convient. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a des personnes extrêmement passionnées et dont vraiment je tiens à saluer le travail, notamment dans nos équipes du Mobilier National, qui ont fait un travail de recherche considérable. Et c'est ce travail de recherche sur les collections que nous menons qui est à l'origine de nombre de nos expositions, que ce soit à la Galerie des Gobelins ou que ce soit à Versailles. Donc, c'est cette érudition qui demande effectivement beaucoup de recherche dans les archives qui nous permet de remettre les choses à leur juste place et de les apprécier vraiment pour ce qu'elles sont. Et à partir de là, on peut effectivement en déduire une politique de dépôt dans les musées nationaux. Là, nous avons travaillé avec Versailles, mais je précise que nous travaillons également avec Fontainebleau, avec Compiègne ou avec le département des objets d'art du Louvre dans le même esprit.
Et puis vous faites aussi ces expositions à la Galerie des Gobelins qui sont de plus en plus époustouflantes, où tout le monde vient alors que il y a quelque temps, ce lieu était totalement inconnu. D'ailleurs, la communication est très importante, et Véronique Leprêtre qui permet aussi de faire connaître toutes ces recherches qui sont faites. Mais vraiment, on doit vous rendre un grand hommage, parce que si vous arrivez à intéresser autant de gens à ces réserves, c'est assez bénéfique pour tout le patrimoine. Je voulais vous poser une autre question. Est-ce que maintenant l'expérience de Versailles, Fontainebleau, Compiègne ne vous conduit pas à vous dire que dans les ambassades, à l'étranger ou ailleurs, ça peut être une vitrine pour la création contemporaine de la France, et que plutôt que d'envoyer un mobilier ancien, c'est plus judicieux d'envoyer un mobilier contemporain créé pour elle?
Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur votre premier point. Je vous remercie de ces paroles très, très élogieuses, très aimables. Je voudrais préciser que si cette galerie a pu rouvrir ses portes en 2007, après 35 ans de fermeture, c'est parce que nous avons eu le soutien des ministres de la Culture successifs. C'est un projet qui était préparé de longue date, qui avait été lancé par Jacques Toubon dès 1994. Et qui finalement a pu être conclu grâce à Renaud Donne-Dieu de Fabre. Donc l'hommage que vous rendez doit être un hommage collectif, mais il est évident que la manufacture des Gobelins et le Mobilier National avaient besoin de retrouver un contact avec le public qui s'était malencontreusement perdu à Paris du fait de la fermeture de cette galerie d'exposition dans les années 70. Nous n'avons pas un musée à proprement parler aux Gobelins, mais nous avons des collections de qualité muséale, et donc il est normal que nous essayions de les partager avec le public, et c'est vraiment notre objectif depuis la réouverture de la galerie. Alors, en ce qui concerne le deuxième point que vous avez évoqué, oui, c'est une question qu'il faut étudier. Je pense que l'art ancien fait partie, bien sûr, de l'image historique de la France et ne doit pas être évacué des ambassades, mais il ne faudrait pas non plus qu'il monopolise et soit la seule forme présente de l'expression artistique de notre pays dans ces lieux qui sont bien sûr des vitrines de la France. Par ailleurs, des raisons de conservation peuvent également aller dans le même sens. Certaines tapisseries ont pu être accrochées trop longtemps et demandent à se reposer. Donc nous essayons avec nos collègues du Quai d'Orsay de réfléchir à ces questions et de voir comment parfois, effectivement, lorsque c'est justifié, introduire des tapisseries contemporaines à la place, par exemple, de tapisseries anciennes. Et nous y sommes d'autant plus poussés que les manufactures nationales ne travaillent pas uniquement avec des artistes français, nous travaillons aussi avec des artistes de tous les continents. Et lorsque nous avons une tapisserie qui tombe de métier, qui est tissée d'après un modèle d'un artiste étranger, ben c'est assez logique aussi d'essayer d'exposer la tapisserie dans l'ambassade du pays qui est celui de l'artiste, ce qui permet de donner une illustration très concrète des échanges culturels entre ce pays et nous. Par exemple, nous venons de terminer une tapisserie d'après James Brown, un grand artiste américain. Cette tapisserie va être exposée à Washington. C'est un bel exemple d'échange entre la France et les États-Unis.
Est-ce la commande publique qui impulse la création contemporaine pour le mobilier national et est-elle constante?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle commande. Nous avons une commission d'acquisition qui se réunit chaque année, qui est présidée par le directeur général de la création artistique. Nous achetons une douzaine de projets de tissage chaque année. Le plus souvent, ces projets sont simplement achetés pour enrichir les collections. Il est plus rare que nous ayons des commandes spécifiques pour un lieu qui est déjà déterminé. Cela dit, cela peut arriver. Ça a été le cas, par exemple, pour l'ambassade de France à Berlin quand elle s'est réinstallée sur la Potsdamer Platz. En ce moment, nous terminons un diptyque pour l'escalier d'honneur de la Cour des comptes qui nous avait été commandé par le regretté Philippe Seguin. Donc, il arrive aussi que nous ayons quelquefois des commandes pour des lieux prédéterminés.
Bernard Schotter, merci. Nous arrivons au terme de ce court entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de conclusion sur l'exposition de Versailles?
Écoutez, c'est une exposition, je l'espère, qui va trouver son public, qui recouvre 4 siècles de création. Je voudrais préciser qu'elle va trouver un prolongement d'une autre manière, cette exposition à la Galerie des Gobelins et à la Galerie de Beauvais. Dès la mi-octobre, nous allons inaugurer une autre exposition qui s'appelle Décors et installations, qui sera présentée sur ces deux sites de Paris et Beauvais, et qui, à travers les toutes dernières pièces tombées de métier dans nos manufactures, les tissages les plus récents, va essayer de poser la question de la relation entre le décor, le décoratif et l'art contemporain. Donc les tapisseries et les tapis que nous exposerons ne seront pas présentés simplement pour eux-mêmes, mais dans le cadre d'installations qui sont de véritables installations d'artistes et pour lesquelles les artistes ont eu aussi licence de choisir, s'ils le souhaitaient, dans les collections du mobilier national. Donc c'est toute une réflexion sur décor et ameublement, décor et installation dans tous les sens que ce mot a pris, qui est proposée. Et je crois que cette double exposition de Paris-Beauvais vient prolonger, compléter et ajouter une résonance nouvelle à l'exposition de Versailles dont nous venons de parler. Donc j'espère que le public sera également intéressé par cette manifestation.
Eh bien, merci infiniment. Et de Beauvais au Gobelin, la chaîne continue sans discontinuer. Merci beaucoup Bernard Schotter.
Merci à vous.
Thank you.